Armel et PhD étaient formés essentiellement en biologie moléculaire, initialement avec Michel Kaczorek, mais sur la toxine diphtérique d'ailleurs. Et puis il y a 30 ans tout court, elle a rejoint notre laboratoire à l'époque où on construisait cette unité de pathogénie microbienne moléculaire. Et elle a franchi toutes les étapes d'une carrière pasteurienne, puisqu'elle est maintenant directeur de recherche à l'Institut Pasteur, avec, comme je l'ai résumé trop rapidement, en fait, deux casquettes. Une casquette de recherche fondamentale, où elle a véritablement été une des premières et une des rares à disséquer les mécanismes de résistance immunologique, de l'hôte à Shigella, avec des difficultés énormes, parce qu'on n'a pas un très très bon modèle animal. Et puis à regarder aussi ces phénomènes de subversion de la réponse immunitaire qui sont caractéristiques de Shigella et qui font que ce micro-organisme est immunosuppressif et qu'il est très très difficile de s'immuniser naturellement contre cette bactérie. Et puis Armel a une autre corde à son arc, si je puis dire, qui est le développement vaccinal. C'est un projet qui m'a tenu à cœur depuis le début de ma carrière à l'Institut Pasteur, dont elle a progressivement, je dirais, pris la situation en main. Et donc très récemment, par exemple, avec une chercheuse du laboratoire de chimie de l'Institut Pasteur, Laurence Mullard, elles ont mis au point un vaccin parentéral contre Shigella, qui est à l'heure actuelle en étude clinique, soutenu vigoureusement par la fondation Bill et Melinda Gates. Donc c'était, disons que Armel est en train de réaliser un de mes rêves, qui est qu'avant de disparaître, on ait enfin un vaccin contre la shigellose. J'espère que la shigellose n'aura pas disparu avant. En tout cas, la volonté et les capacités sont là. Donc merci Armel.
Merci beaucoup Philippe, c'est un grand plaisir et un honneur de pouvoir vous résumer aujourd'hui 30 années de nos travaux justement avec cet objectif ambitieux je crois de développer un vaccin contre la shigellose. Bien évidemment ces 30 années ça a été des périodes avec des succès, des échecs, des doutes, des moments de choix stratégiques très importants et c'est ce que je vais essayer de vous illustrer au cours de ma présentation. Donc, en guise d'introduction, je vous rappellerai que les maladies diarrhéiques sont transmises par l'eau et les aliments contaminés, c'est donc une contamination par la voie orofécale. Et il y a plusieurs moyens de prévenir cette dissémination, en particulier à partir des selles qui sont contaminées avec ces pathogènes entériques. Donc, la première, bien évidemment, c'est d'avoir accès à des sanitaires contrôlés, c'est-à-dire où les systèmes d'évacuation sont adaptés pour éviter la transmission de ces pathogènes dans l'environnement. L'autre élément très important, bien évidemment, c'est l'accès à de l'eau potable, ce qui va limiter la contamination des individus. Et enfin, le troisième élément, c'est la mise en place d'un certain nombre de mesures d'hygiène, comme par exemple le lavage des mains avec du savon, de façon à pouvoir limiter la contamination au niveau des aliments. Alors, au cours de ces dernières décennies, il y a eu des progrès absolument considérables dans la mise à disposition de sanitaires, je dirais, contrôlés et d'accès à l'eau potable. Mais si vous regardez l'état des lieux en 2015, vous voyez ici que, en particulier dans certaines régions du monde, comme l'Afrique, également en Asie, eh bien, il y a encore des régions dans le monde où plus de 10%, voire plus de 20% de la population n'a toujours pas accès à de l'eau potable. Et alors, il y a des progrès envisagés avec des challenges extrêmement ambitieux, mené par l'OMS et l'UNICEF, de façon à l'horizon 2030, essayer d'avoir un accès à tous à l'eau potable et essayer également d'avoir l'installation de sanitaires adéquates, le plus adapté possible, puisque aujourd'hui encore dans le monde, il y a environ 2 milliards d'individus qui n'ont pas d'eau potable à la maison et 4,5 milliards d'individus qui n'ont pas de sanitaires à la maison. Et concernant les sanitaires, le point très important, c'est que vous avez 900 millions d'individus encore à peu près aujourd'hui dans le monde qui utilisent la défécation en milieu naturel, ce qui bien évidemment est un élément qui va favoriser la transmission de ces pathogènes entériques. Donc il y a un objectif de stopper cette défécation naturelle à l'horizon 2030. Alors, bien évidemment, Avec de telles données, vous ne serez pas surpris que je vous dise que les maladies diarrhéiques sont en fait aujourd'hui encore un problème de santé publique majeur dans le monde. En termes de mortalité, on estime à peu près à 1,3 million de morts par an, tout âge confondu, avec environ 500 000 morts chez les enfants de moins de 5 ans, ce qui en fait la deuxième cause de mortalité dans cette population. Et si vous regardez cette carte qui vous donne une idée des pays où la mortalité est la plus importante, plus c'est coloré, plus la mortalité est élevée, eh bien, cette carte en réalité se superpose presque pratiquement avec la carte précédente que je vous ai montrée, où on montrait les pays où lesquels il y avait un pourcentage important de la population qui n'avait pas accès à l'eau potable. Alors, ces chiffres, quand même, ils ont bien diminué au cours des 30 dernières années. Et le problème majeur auquel on a à faire face aujourd'hui, au-delà de la mortalité liée à ces maladies diarrhéiques, c'est le problème de la morbidité, c'est-à-dire des conséquences à moyen ou long terme de ces infections diarrhéiques. Et il faut que vous ayez conscience que on a par année environ 950 millions de cas de diarrhée qui se produisent chez des enfants de moins de 5 ans. Et il n'est pas rare dans les pays en zone d'endémie que des enfants, dans leur première année, aient 3, 4, 5 épisodes de diarrhée. Et ça, ça a une conséquence absolument majeure sur leur muqueuse intestinale. Et il y a la mise en évidence de pathologies, comme on appelle l'entéropathie, c'est-à-dire une destruction, avec de l'inflammation au niveau de cet épithélium intestinal. Et vous voyez ici que, alors que normalement on a des villosités de cette taille, eh bien, dans ces cas d'entéropathie, on a une atrophie intestinale. Et ça, c'est une conséquence majeure, c'est que cet intestin qui est détruit ou altéré va avoir pour conséquence d'être moins performant dans l'absorption des nutriments. Et s'il y a malabsorption des nutriments, il y a plus de risques avec d'autres cofacteurs de conduire à des problèmes de malnutrition. Et en fait, on sait très bien aujourd'hui que chez les enfants mal nourris, il y a deux conséquences très importantes. D'une part, c'est un retard staturopondéral et un retard cognitif. Et d'autre part, c'est un système immunitaire qui va être très peu performant pour se défendre quand il va faire face à de nouveaux pathogènes. Et donc, cela vous rend encore plus susceptible à d'autres réinfections et vous avez ce cercle vicieux qu'il faut absolument rompre par différents moyens. Alors, une première possibilité de le rompre, c'est de faire des compléments nutritionnels. Ça a été testé en particulier au Bangladesh, où il a été montré que dans ces populations, si l'on supplémentait l'alimentation avec de la vitamine A ou du zinc, eh bien, on restaurait la barrière intestinale, ça favorisait la régénération de la barrière intestinale. Et puis également, on a montré que ça pouvait avoir un rôle dans la stimulation du système immunitaire, qui est bien sûr évidemment l'autre composante sur laquelle on va essayer de pouvoir impacter, de manière à ce que ces enfants puissent avoir des défenses immunitaires pour se protéger contre les réinfections. Alors, il y a deux éléments clés. Bien évidemment, l'allaitement maternel. Dans ces zones d'endémie, les mères ont été infectées. Elles ont des anticorps contre ces pathogènes qu'elles vont pouvoir transmettre à leur bébé au cours de l'allaitement. Donc ça, c'est une transmission passive. Et puis, bien évidemment, il y a la mise en place de stratégies vaccinales qui vont permettre de stimuler le système immunitaire pour monter une immunité protectrice qui va donc permettre de protéger contre les réinfections. On en vient à Shigella, qui fait donc partie de ces pathogènes entériques responsables de maladies diarrhéiques. Et on estime à peu près à 125 millions d'épisodes dus à Shigella par an, ce qui conduit en gros à 200 000 morts, dont 65 000 morts chez les enfants de moins de 5 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que la question s'est posée ces dernières années de savoir quelle était l'incidence aujourd'hui encore de cette bactérie Shigella. Et donc, il y a une étude multicentrique extrêmement importante qui a été menée en particulier avec nos collègues américains, où 4 sites en Afrique et 3 sites en Asie ont été mis en place pour essayer de définir quels étaient finalement les pathogènes entériques majeurs qui émergeaient, qui étaient responsables de diarrhées modérées ou sévères chez ces enfants de moins de 5 ans. Et vous voyez ici le résumé de ces longues études, c'est que dans les enfants de 0 à 11 mois, on voit Shigella qui arrive en niveau numéro 4 de pathogènes responsables de ces diarrhées. Dans la période de 12 à 23 mois, Shigella arrive en numéro 2, juste après rotavirus, et chez les 24-59 mois, Shigella est l'élément principal qui génère ces diarrhées chez ces enfants donc de moins de 5 ans. Alors, quelques éléments supplémentaires qui justifient, au-delà des caractéristiques générales que j'ai définies pour le fait de développer des vaccins contre les maladies diarrhéiques, ce cas particulier pour Shigella, c'est qu'en fait, l'ensemble des souches qui circulent actuellement sont toutes multirésistantes contre les antibiotiques qui sont utilisés pour traiter ces infections. Le deuxième point, c'est qu'on ne peut pas mettre en place de réhydratation orale, qui est une thérapie qui marche très 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 bien quand vous avez des personnes infectées qui développent le choléra, parce que le choléra c'est une diarrhée aqueuse au cours de laquelle il n'y a pas une destruction tissulaire massive de l'épithélium intestinal comme c'est le cas dans le cas des infections par Shigella. Philippe vous a montré cette image tout à l'heure de destruction massive de cet épithélium colique. Ça c'est l'architecture normale d'un épithélium chez un individu qui n'est pas infecté. La différence est évidemment majeure. Donc cette réhydratation orale, cette thérapie, ne peut pas être utilisée dans les cas d'infection à Shigella. Elle ne fonctionne pas parce qu'elle ne suffit bien évidemment pas à restaurer cette destruction tissulaire massive. Et puis le dernier point qu'il faut prendre en compte également, c'est que dans la population pédiatrique, on a très souvent des complications aiguës, qui sont d'ailleurs très souvent la cause de la mort de ces très jeunes enfants, comme par exemple des septicémies, des perforations, des chocs septiques, etc. Donc ça, ce sont des éléments supplémentaires qui viennent en faveur vraiment du développement d'un vaccin contre cette bactérie. Alors, lors de l'infection naturelle, on développe une immunité de protection qui va conduire à la protection, mais cette immunité, Philippe l'a mentionné, en fait, il faut plusieurs infections avant que cette immunité se mette en place et elle est de courte durée. Et ça, c'est probablement lié effectivement au travail que nous avons réalisé avec mon groupe où nous avons montré que Shigella avait la possibilité de moduler les réponses spécifiques et donc de cibler les cellules B et les cellules qui sont impliquées dans la mise en place de ces réponses spécifiques. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles, effectivement, lors de l'infection naturelle, ces effecteurs agissent envers ces cellules et donc l'immunité induite est de courte durée, pas optimale. Et ce qui a été observé lors de données épidémiologiques, d'essais vaccinaux, c'est qu'en fait, cette protection, elle est médiée essentiellement par des anticorps et elle est médiée par des anticorps qui reconnaissent la molécule qui est présente en surface de Shigella, qui est une bactérie gram-négative, c'est-à-dire le lipopolysaccharide. Vous voyez ici un marquage de ce lipopolysaccharide à la surface des bactéries. C'est vraiment l'antigène majeur de surface de ces bactéries. Et en particulier ces anticorps qui sont soit des IgA sécrétoires qui sont produites localement au niveau de l'intestin, soit des IgG sériques. Elles sont en fait dirigées contre la partie polysaccharidique de ce LPS, lipopolysaccharide. Et en fait, cette réponse anticorps, elle est sérotype spécifique, c'est-à-dire que vous allez développer une immunité qui va être dirigé contre la souche qui vous a infecté, mais si vous êtes infecté par une autre souche de Shigella, vous ne serez pas protégé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que les anticorps reconnaissent sur cet antigène polysaccharidique, c'est un motif sucre avec des structures qui sont répétées et la composition en sucre de ces motifs répétés eh bien, définit en réalité les espèces et les sérotypes de Shigella. Donc, en termes de développement vaccinal, ça complexifie grandement les choses puisqu'il va falloir envisager de développer un vaccin multivalent. Donc ici, c'est juste pour vous montrer la diversité des différentes espèces de Shigel, dysentérier, boïdie, sonnei ou flexneri, que l'on peut retrouver. Ça sont les données de l'étude épidémiologique dont je vous ai présenté les résultats précédemment. Donc on se rend compte que c'est principalement Shigella sonnei et Shigella flexneri qui sont prédominantes. Et pour Shigella flexneri, on a tout un ensemble de sérotypes qui sont également circulants, mais quand même une petite partie d'entre eux sont responsables, sont en fait ceux qui représentent 90% des souches qui sont circulantes. Donc l'idée en réflexion de développement d'un vaccin multivalent, c'est évidemment de considérer sonnei. Ici, le pourcentage est relativement faible. Ce sont des pays à faible niveau économique, mais si vous regardez en Israël, en Thaïlande, etc., sonnei va être prédominant par rapport à Shigella flexneri. Donc de toute façon, c'est un composant à prendre en considération pour le vaccin. Et puis, parmi les sérotypes de flexneri, après réflexion, en prenant ceux qui sont prédominamment circulants et en considérant que certains d'entre eux pourraient éventuellement permettre une cross-réactivité ou une cross-protection, la communauté internationale s'est mise d'accord sur le fait qu'il fallait développer un vaccin tétravalent incluant Shigella sonnei, Shigella flexneri sérotype 2A, 3A et le sérotype numéro 6. Donc, en résumé, le vaccin idéal contre la shigellose que l'on essaie de mettre en place, c'est il faut qu'il cible la population des enfants de moins de 5 ans, avec en particulier également être efficace dans la population pédiatrique à cause de ces complications aiguës dont je vous ai parlé. Il faut qu'il induise des anticorps protecteurs qui sont dirigés contre cette partie polysaccharidique, l'antigène O du LPS, soit au niveau local, intestinal, soit dans le sérum, et il doit être tétravalent. Alors, si on fait un bref historique du développement de vaccins contre la shigellose depuis les années 20, hein, le bacille de Shiga a été identifié en 1900 ou 1901, eh bien, on se rend compte qu'il y a en fait trois grands types d'approches de vaccins qui ont été élaborés. Des vaccins comprenant la bactérie entière, donc soit des vaccins tuées, c'est-à-dire bactéries inactivées par la chaleur ou par des traitements chimiques, soit des vaccins vivants atténués et administrés par voie orale. Et puis plus tardivement, avec le développement de technologies, on s'est mis à développer des vaccins de type sous-unité, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on n'utilise pas la bactérie entière, mais on utilise uniquement les composants de la bactérie qui sont nécessaires pour induire l'immunité protectrice. Si on se place dans le cadre de notre laboratoire, nous avons essentiellement travaillé sur le développement de deux types de vaccins, des vaccins vivants de virulence atténuée administrés par voie orale et puis un petit peu en décalé le développement de vaccins sous-unité qui sont de type glycoconjugué et cette fois-ci avec l'idée de les administrer par voie parentérale. Alors, quel est le rationnel de développer des vaccins vivants atténués administrés par voie orale? C'est relativement évident. Vous avez l'infection naturelle qui vous stimule l'immunité locale et donc on sait qu'au cours de l'infection naturelle, il y a cette immunité protectrice qui est induite et donc il est assez logique de se dire que si l'on mime l'infection naturelle par la vaccination, bien évidemment avec une souche atténuée qui ne va pas générer la maladie, vous allez maintenir cette induction de l'immunité à la fois au niveau muqueux et également vous allez avoir une réponse au niveau du compartiment systémique. Là encore, si l'on résume beaucoup de décennies de travaux au niveau international, en fait on peut dire qu'il y a eu plusieurs périodes qui se sont succédées et je ne vais parler ici que des données qui ont été obtenues lors d'essais cliniques sur le terrain. Donc, dans un premier temps, ce qui a été développé, ce sont des souches vivantes de virulence atténuée administrées par voie orale, mais atténuées de façon empirique. C'est-à-dire, on laisse les bactéries, on passe les bactéries en culture jusqu'au moment où on sélectionne un mutant qui est devenu avirulent. Plusieurs doses étaient utilisées, 3-4 doses. Et les résultats de ces nombreux essais cliniques ont montré que ces souches étaient bien tolérées, qu'elles induisaient la réponse anticorps qui était attendue, les anticorps anti-antigène O, et que, dans certains cas d'études, on pouvait avoir une protection tout à fait significative de la population. Ensuite, on a commencé à réfléchir à la possibilité de faire des atténuations spécifiques à partir du moment où on a commencé à avoir accès à la biologie moléculaire et à pouvoir décider de déléter un gène qui codait pour une protéine dont on voulait se débarrasser, si je puis dire. Et donc, on a commencé à avoir des essais avec des atténuations spécifiques de la virulence. Et à ce moment-là, dans les années 90, on a commencé à passer de 3-4 doses à une dose. Philippe me dira si je me trompe ou pas, mais il me semble que c'est l'OMS qui, à l'époque, avait beaucoup insisté pour que les vaccins vivants de virulence atténuée soient fonctionnels après une seule dose. Évidemment, vous vous transportez sur le terrain, vous imaginez des populations importantes à vacciner, vaccination de masse, une dose à injecter, évidemment, ça sera plus facile à gérer que 3 ou 4. Donc, les développements ultérieurs se sont focalisés sur avoir un vaccin efficace avec simplement une seule dose administrée par voie orale. Donc, certains vaccins ont été montrés comme étant bien tolérés, induisant des réponses anticorps adaptées. Et donc, de tous ces travaux, en fait, on en a conclu qu'on avait fait la preuve du concept sur le terrain que les souches vivantes de virulence atténuée administrées par voie orale pouvaient tout à fait être considérées comme vaccins potentiels. Sauf qu'à l'époque, les souches qui avaient été développées, il y avait des problèmes de stabilité et aucune de ces souches historiques, je dirais, vaccinales, n'ont ensuite été commercialisées. Et puis, on arrive à la période un petit peu plus récente où, finalement, comme Philippe vous l'a montré, on a eu accès beaucoup plus facilement à la manipulation génétique et donc il a pu être beaucoup plus facile et puis en plus à la connaissance de la pathogénicité de la bactérie. Donc, à ce moment-là, il a été beaucoup plus facile de développer des approches tout à fait rationnel en termes d'atténuation de la virulence. Et essentiellement, ce qui s'est fait, c'est deux choses. D'altérer, une part, les voies métaboliques qui affectent la capacité de la bactérie à survivre dans les tissus. Et puis, d'autre part, comme Philippe vous l'a montré, à supprimer un certain nombre de facteurs de virulence dont on avait identifié la fonction et dont on pensait qu'il serait bon qu'il soit absent de la souche vaccinale. Et puis, des approches ont combiné les deux, comme je vais vous le montrer, et toujours avec une dose en termes de vaccination. Donc, ce qui a été développé au laboratoire, et ça, c'est Philippe qui a initié ce travail, c'est... Je résume ici très rapidement le développement donc d'une souche vaccinale qu'on a appelée SC602 qui est dirigée contre la souche Flexneri 2A qui est la souche de Flexneri prédominamment représentée au niveau mondial. Et ce que Philippe a construit finalement avec l'aide de l'équipe, le concept c'était le suivant. Il fallait garder la souche invasive, donc la souche vaccinale continue de pouvoir passer la barrière intestinale de façon à pouvoir venir efficacement stimuler le système immunitaire qui est associé à cette barrière intestinale. Mais par contre, il faut l'empêcher, évidemment, de pouvoir disséminer au niveau du tissu. Et comme l'équipe avait identifié la protéine ICSA comme étant impliquée dans cette dissémination au niveau de la barrière intestinale, eh bien, la construction qui a été réalisée, ça a été de déléter le gène codant pour cette protéine ICSA. Et puis, par, je dirais, sécurité, peut-être, être envie de trop de sécurité, Philippe a pensé qu'il fallait aussi, bien sûr, altérer la bactérie dans sa capacité de survie intratessulaire. Et donc, d'autres gènes ont été atténués de façon à limiter la possibilité de la bactérie à capter le fer dans les tissus, ce qui est un élément extrêmement important pour assurer sa survie. Donc, comme disent les Anglais, pour faire une histoire longue, courte, les résultats des essais cliniques avec cette souche SC602 sont les suivants. Après des données précliniques, bien sûr, nous avons pu passer dans des essais de phase 1 chez des volontaires, en particulier des volontaires de l'armée américaine, où il a été montré que cette souche était très bien tolérée, qu'elle était tout à fait immunogénique, donc elle induisait les anticorps attendus, reconnaissant l'antigène O du LPS, et à ce moment-là, ce qui a été mis en place pour vérifier si, chez l'homme, cette souche était capable de produire une immunité qui était efficace contre l'infection, il y a une étude qui a été faite de challenge infectieux chez l'homme dans un modèle contrôlé d'infection. Nous y reviendrons un petit peu plus tard dans ma présentation, où il a été montré 100% de protection chez les individus vaccinés avec SC602 contre la dysenterie bacillaire et la fièvre et 50% de protection contre une diarrhée modérée. avec ces résultats qui, à l'époque, étaient extrêmement satisfaisants parce que beaucoup d'essais avaient été faits avec cette atténuation spécifique de virulence et, en fait, très peu avaient permis de trouver une balance entre suffisamment atténué pour être bien toléré, mais pas non plus trop atténué, au risque donc de ne plus induire la bonne immunité. Donc ça, on était très très contents avec ces résultats. Et donc, eh bien, on est allé dans la population cible, au Bangladesh, en zone d'endémie, où un essai a été réalisé en partant bien sûr d'abord de chez les adultes pour vérifier qu'on a bien les bons résultats de tolérance, en particulier que ceux qui étaient observés chez les individus dans les pays à l'ouest. Et puis ensuite, au vu des résultats chez les adultes, on passe chez les enfants et ensuite on descend en âge jusqu'à atteindre l'âge de 1 à 3 ans. Là encore, en termes de tolérance, très très bonne tolérance dans toutes les catégories d'âge, mais par contre, grosse déception, pas d'immunité et probablement pas d'immunité observée parce qu'une capacité à coloniser le tissu de ces individus en zone d'endémie extrêmement, extrêmement mauvaise. Et ça, c'est probablement lié au fait que l'atténuation de la capacité de survie intracellulaire pour survivre dans un environnement de l'intestin d'individus qui vivent en zone d'endémie où il y a des infections répétées, où leur intestin a probablement déjà un niveau de réponse innée beaucoup plus important que le nôtre, eh bien, cette soute vaccinale était probablement trop atténuée pour pouvoir s'installer de façon suffisante et donc d'induire la bonne immunogénicité. Alors la conclusion de ça, c'était de se dire que malheureusement, les résultats qu'on obtenait chez les volontaires sains dans les pays riches, si je puis dire, eh bien, n'étaient malheureusement pas prédictifs des résultats que l'on pouvait obtenir sur le terrain. Il y avait plusieurs explications à ces résultats décevants. Je reviens sur le fait qu'une seule dose, probablement, c'était totalement illusoire de penser pouvoir stimuler le système immunitaire local de façon efficace. Et d'autre part, comme je l'ai dit, probablement une atténuation trop importante pour pouvoir survivre dans un environnement très différent entre les individus qui vivent dans ces zones très différentes, pays riches et pays, on ne dit plus en voie de développement, mais disons à faible... à faible ressource. Et en fait, ces hypothèses pour expliquer l'absence de résultats sur le terrain, eh bien, ils ont été récemment confirmés. Il y a une souche vaccinale contre Shigella sonnei qui a été testée au Bangladesh. Cette souche, elle a la mutation ICSA, mais elle n'a que celle-ci. Elle n'est pas atténuée dans sa capacité de survie intratissulaire. Et au lieu d'utiliser une dose, ce sont trois doses qui ont été utilisées. Et là, cette souche s'est montrée immunogène chez ces enfants et chez ces adultes. Donc, ça relance un petit peu la possibilité quand même d'avoir ces souches de virulence atténuée fonctionnant dans ces pays en zone d'endémie. Néanmoins, il faut que vous gardiez quand même en tête que globalement, il y a quand même un problème à stimuler de façon efficace le système immunitaire intestinal par des vaccinations par voie orale. Ça a été montré dans le cas de la vaccination contre le polio avec le vaccin oral. Ça a été montré également lors de la mise en place de la vaccination rotavirus. Donc ça, c'est lié à ce que j'ai dit, des différences majeures entre ces populations. Et puis, il ne faut pas oublier, comme Philippe l'a mentionné, qu'aucune de ces approches vaccinales atténuées n'a pris en compte jusqu'à présent les éléments récents que nous avons apportés, à savoir qu'il y a des effecteurs de Shigella qui ciblent les cellules qui vont conduire à la mise en place de l'immunité protectrice. Donc il y a probablement beaucoup à faire pour imaginer avoir un développement de ce type d'approche qui finalement puisse être fonctionnel sur le terrain. L'autre type de candidat vaccin que nous avons développé au laboratoire, un petit peu en parallèle, en décalé, ce sont ces vaccins glycoconjugués. Alors là, il faut revenir dans les années 90. Je venais d'arriver au laboratoire, recruté dans l'unité de Philippe, et Philippe m'avait confié comme projet le fait de caractériser plus précisément les cibles et les effecteurs de la réponse protectrice contre Shigella. Donc j'avais focalisé mes études sur Shigella flexneri 2A, comme je vous ai dit, qui est prédominante au niveau mondial en termes de circulation. Et en fait, j'avais généré tout un ensemble d'anticorps monoclonaux, soit de type IgA pour mimer la réponse au niveau intestinal, soit de type IgG pour mimer la réponse sérique. Et parmi tous les anticorps que j'avais générés, je me suis rendu compte que seulement ceux qui étaient spécifiques de sérotype étaient en fait nécessaires et suffisants pour conduire à une protection contre une réinfection dans un modèle expérimental. Donc ça voulait dire que ces anticorps, eh bien, ils reconnaissaient des motifs sucres particuliers sur cette partie polysaccharidique de l'antigéno. Et là, j'étais un petit peu bloquée et un petit peu frustrée parce que finalement, ces structures schématisées ici, quand on représente ce que sont ces sucres, l'unité répétitive pour Shigella flexneri 2A, pour son antigène polysaccharidique, ce sont trois rhamnoses, un acétylglucosamine résidu et un glucose. Et moi, je me disais, j'aimerais quand même bien savoir ce que mes anticorps reconnaissent, quels sont ces épitopes sérotypes spécifiques. N'étant pas spécialiste de sucre, j'ai eu la chance que soit recrutée à l'Institut Pasteur Laurence Mullard, qui est arrivée avec son expertise en glycosciences, en glycochimie, en synthèse de sucre, d'oligosaccharides, et elle avait travaillé sur Shigella dysenteriae, où elle avait non seulement synthétisé des petits sucres, donc on appelle les oligosaccharides, et elle avait aussi fait des reconnaissances d'anticorps et de sucres, donc c'était exactement la personne que nous attendions pour avancer. Et en fait, Laurence, elle revenait de son postdoc des États-Unis au NIH, où elle avait travaillé avec John Robbins. Et John Robbins, c'est le père des vaccins glycoconjugués. Et j'aimerais d'ailleurs, à cette occasion, saluer sa mémoire, puisqu'en fait, nous a quittés la semaine dernière. Donc John Robbins, il a eu vraiment une idée extraordinaire à partir de données anciennes, c'est de considérer que pour toutes ces bactéries qui avaient des polysaccharides capsulaires, à partir desquelles on avait commencé à développer des vaccins, mais dont on avait montré que l'immunogénicité était relativement faible, en particulier parce que les sucres ne sont pas capables de stimuler la réponse dépendante des cellules T, qui sont critiques pour produire des anticorps de façon efficace, eh bien, John Robbins a eu l'idée de coupler ces polysaccharides bactériens sur des protéines porteuses pour en faire des glycoconjugués. Et en fait, la composante protéique qui est ajoutée au sucre permet de stimuler le système immunitaire de façon tout à fait efficace parce qu'à ce moment-là, il y a engagement des cellules T pour la mise en place de la réponse et du coup, la réponse anticorps qui est attendue est beaucoup plus efficace et en particulier, ça a été absolument une révolution pour la vaccination des jeunes enfants et ça a donné lieu à des vaccins que vous connaissez, glycoconjugués contre pneumo, contre méningo, contre hémophilus influenza type B. John Robbins, il est allé plus loin. Il s'est dit, mais finalement, je vais m'intéresser aux glycoconjugués pour des pathogènes entériques qui ont du LPS, puisque finalement, il y a la partie polysaccharidique. Et il a fait cette hypothèse qu'il a ensuite testée, c'est de dire finalement, vous voulez absolument faire de l'immunisation par voie orale parce que vous voulez mimer l'infection naturelle et vous voulez donc générer des réponses locales au niveau muqueux et au niveau systémique. Mais en fait, ce n'est pas nécessaire. Si vous faites une immunisation par voie parentérale, pour bien évidemment induire les anticorps attendus, dirigés contre l'antigène O, et que en fait, vous êtes capable d'avoir une réponse sérique à un niveau suffisamment important en titre d'anticorps produit, eh bien, ces anticorps ils vont pouvoir transuder du compartiment systémique au compartiment muqueux, et vous allez pouvoir, de cette façon, avoir une protection contre des infections entériques. Et donc, il a testé cette hypothèse, il a développé un candidat vaccin de type glycoconjugué contre Shigella, flexneri 2A et Sonei. Et évidemment, comme il partait du LPS de la bactérie, vous savez que le LPS, il y a cette partie toxique avec le lipida, donc le LPS purifié de la bactérie a été détoxifié de manière à ne garder que la partie polysaccharidique antigène O, qui a été couplée à une protéine porteuse. Et là encore, pour faire une histoire longue courte, les résultats sur le terrain ont montré que ce glycoconjugué était tout à fait bien toléré, qu'il était immunogène et qu'il était tout à fait efficace dans la protection chez les adultes et chez les enfants de plus de 3 ans. Quelques limitations quand même à cette approche. Le fait que lors de ces essais sur le terrain, Il n'y avait pas de protection chez les enfants de moins de 3 ans, visiblement à cause d'une réponse anticorps qui était trop faible. Et également, un autre problème avec ce type d'approche, c'est que lorsque, d'abord, il faut purifier le LPS à partir des bactéries, ensuite, il faut le détoxifier, et lors de ces deux étapes, il y avait des problèmes qui pouvaient être liés à un impact sur la composition de l'antigène O, et donc, par voie de conséquence, sur son immunogénicité. Donc à partir de ces travaux, la communauté scientifique s'est mise un petit peu à réfléchir sur, en particulier chez John Robbins, comment est-ce qu'on pourrait dépasser ce problème de l'utilisation du LPS détoxifié et comment, en quelque sorte, on pourrait essayer de trouver des mimes, finalement, de cet antigène O sans avoir à passer par la purification à partir de la bactérie et la détoxification. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce concept de vaccin glyco-conjugué de type moléculaire, en considérant que des vieux travaux avaient montré que finalement, au lieu d'utiliser un polysaccharide très long, si vous utilisez des séquences beaucoup plus courtes, en fait, la réponse immunitaire est beaucoup plus appropriée. Pourquoi ? Si vous avez une séquence longue, vous allez avoir des anticorps qui vont pouvoir reconnaître plusieurs types de motifs, alors que si vous avez une séquence courte, à condition, bien sûr, qu'elle soit bien sélectionnée, vous allez forcer votre réponse immunitaire vers cette séquence, et donc, si c'est la bonne, vous allez générer une réponse qui va être plus adaptée. Et si on associe cela, et comme l'a dit Philippe, hein, les avancées se font aussi grâce à des avancées technologiques, si on associe ces données fondamentales au fait qu'il est devenu possible de faire des synthèses de sucre, donc d'oligosaccharides, eh bien, on se dit que finalement, avec des oligosaccharides de synthèse, tout est contrôlé, on a exactement idée de la molécule avec laquelle on travaille. Le contrôle de qualité, si on se positionne en termes de développement de vaccins, va être bien plus satisfaisante. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à ce concept qui est résumé ici, c'est-à-dire qu'un glyco-conjugué peut être obtenu avec un oligosaccharide à condition que celui-ci soit capable de mimer le polysaccharide natif. Et puis, une fois qu'on l'a identifié, eh bien, on le couple à une protéine carrière. On peut choisir laquelle. Et on peut également choisir la manière dont on va recoupler les deux par différentes possibilités de conjugaison, de chimie de conjugaison. Donc, je reviens à mes anticorps, dont je voulais savoir quelles étaient les structures qui étaient reconnues. Et lorsqu'on a commencé à travailler ensemble avec Laurence, on s'est dit que finalement, on allait aller au-delà de simplement définir quelle était la structure sucre qui était reconnue par ces anticorps et qu'on allait essayer de trouver un mime fonctionnel de l'antigène O en utilisant des sucres synthétiques. Alors pour cela, on a mis en place cette stratégie que je résumais ici. Donc d'un côté, j'avais mes monoclonaux, de l'autre côté, Laurence, experte en synthèse de sucre, avec son groupe, eh bien, elle s'est mise à synthétiser un nombre important, plus de 25 séquences oligosaccharides synthétiques, en partant bien sûr de la structure de base du motif répété pour Shigella flexneri de A, et donc ici, en partant de ces sucres que j'ai appelés ici ABCDE, eh bien, elle a synthétisé des séquences oligosaccharidiques plus ou moins longue. On est parti de 2 et on est arrivé jusqu'à des séquences de sucre, jusqu'à 20 sucres, donc 20 mères. On a testé la reconnaissance de ces sucres par les anticorps. Les séquences retenues et sélectionnées ont ensuite été criblées avec des sérums de patients infectés naturellement par Shigella, parce qu'on voulait s'assurer que ces motifs pouvaient être reconnus par des anticorps générés au cours de l'infection naturelle. Et les séquences finalement sélectionnées, on les a couplées à une protéine carrière. Nous avons utilisé le toxoïde tétanique, qui est en fait le toxoïde qui est utilisé pour la vaccination contre le tétanus, le tétanos. Et donc, on a fait des immunisations chez la souris. On a sélectionné les meilleurs conjugués qui induisaient des anticorps reconnaissant la bactérie. Et on s'est assuré que ces anticorps étaient bien fonctionnels. On a fait des tests in vitro pour montrer qu'en présence de compléments, ces anticorps étaient capables de tuer les bactéries. Donc, à nouveau, pour faire une histoire longue courte, nous avons finalement conclu que le mime oligosaccharidique de l'antigène O était un pentadécasaccharide, c'est-à-dire 15 sucres qui correspondaient en fait à 3 unités répétitives de l'antigène O que nous avons pour lesquels, lorsque ce sucre est couplé à la protéine porteuse, eh bien, on génère des anticorps qui sont capables de reconnaître la bactérie. et on a travaillé toute cette chimie de couplage et on a montré que si on avait en gros 17-20 sucres par protéine, eh bien, c'était les conditions dans lesquelles on obtenait la meilleure immunogénicité, les meilleurs titres en anticorps. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que donc, ces anticorps induits par ce mime saccharidique reconnaissent les bactéries et c'est probablement lié au fait que finalement, de façon tout à fait magique, je dirais, cette petite structure, en fait, elle génère des anticorps capables de reconnaître des grandes séquences d'antigènes O, 15-20 unités répétitives, 100 unités répétitives, exactement comme les anticorps qui sont induits par des bactéries entières. C'est les mêmes niveaux de reconnaissance. Là, c'est des anticorps induits par des bactéries tuées et ça, les anticorps induits par notre candidat vaccin. Alors, à partir de ces résultats précliniques chez la souris, comment fait-on pour faire la preuve de concept chez l'homme ? On est dans les années 2005, l'Institut Pasteur montre un intérêt par rapport à nos approches, commence à nous donner des financements pour essayer de mettre en place l'obtention d'un lot clinique. Et puis finalement, l'Institut Pasteur change d'avis, les priorités changent. Donc on est un petit peu dans une période un peu déprimée, on a des chouettes résultats et puis on ne sait pas comment avancer. Et puis là, en 2009, grand changement, en 2009, la communauté européenne lance un grand programme et dans un des aspect de ce grand programme, il y a un appel d'offres pour des projets en vue de développer des vaccins contre les maladies diarrhéiques du jeune enfant. Ni une ni deux, nous nous réunissons, Philippe nous dit, voilà, il faut absolument qu'on y aille, mais à ce moment-là, 2009, grand dilemme. On a les résultats que je viens de vous présenter avec ce conjugué semi-synthétique et puis on a toujours ces résultats en tête de SC602 qui n'ont pas marché sur le terrain mais dont on se dit que peut-être quand même ça vaudrait le coup de relancer des essais cliniques. Donc la très grande discussion, les budgets c'était environ 10-12 millions d'euros qui allaient être attribués. On a mis en place, on va faire les deux, on garde le vaccin vivant, on garde les deux, on combine les deux et puis on arrivait à des sommes pour réaliser les essais cliniques pour faire les preuves du concept qui étaient totalement hors budget possible. Donc, la mort dans l'âme, après de très longues discussions, Philippe un jour est venu et nous a dit à Laurence et moi, bon, très bien, j'abandonne les vaccins vivants atténués, nous allons pour cet appel d'offres de l'Europe uniquement avec l'approche vaccin conjugué semi-synthétique. Ce que nous avons fait, avec succès je dois dire, puisque en 2010, nous avons reçu le financement de l'Europe et nous avons mis en place ce magnifique consortium StopAntérix qui a été mené par Philippe. 17 institutions, à peu près 11,5 millions d'euros. Un thème large pour ce projet très ambitieux, vaccination contre Shigelle et également ETEC qui faisait partie de l'appel d'offres. Donc on s'est dit que pour avoir un petit peu plus de chance, on avait des idées aussi avec des groupes pour pouvoir avancer des approches vaccinales contre ETEC également. Nouveaux antigènes, nouvelles approches. Donc, on a démarré novembre 2010, c'était pour 5 ans. On a fini quelques activités un petit peu en retard, en particulier nos essais cliniques avec notre candidat vaccin. Et juste pour résumer brièvement, il y avait deux grands aspects dans ce projet, dans ce consortium. Des aspects très, très fondamentaux sur lesquels je ne rentrerai pas ici dans le détail. Et puis, un deuxième pan très important qui était vraiment de faire la preuve de concept avec des essais cliniques de deux candidats vaccins, le nôtre, et puis d'un autre candidat vaccin, à l'époque qui était développé par la fondation Novartis, qui s'intéressait à développer des vaccins pour des maladies négligées, et qui consiste en fait à utiliser des vésicules membranaires qui se forment par les bactéries, en particulier les bactéries gram-négatives, et donc de pouvoir moduler la composition de ces vésicules membranaires, et donc d'en faire un candidat vaccin. Donc, nous avons démarré une aventure extraordinaire. Nous avions les moyens de pouvoir mettre en place l'essai clinique de phase 1. Donc, nous avons obtenu un lot clinique adapté, ce qui n'a quand même pas été une petite affaire. Et puis ici, c'est juste pour vous résumer l'essai clinique que nous avons fait, donc la phase 1 que nous avons fait en Israël, à Tel Aviv, au Swarovski Medical Center. Donc, nous avons procédé avec deux cohortes, chacune avec 32 individus, et nous avons voulu tester deux doses de ce candidat vaccin, dose de sucre administré au cours de la vaccination. Donc, soit 2 microgrammes d'équivalent en oligosaccharides synthétiques, soit 10 microgrammes. Nous avons également voulu tester le bénéfice ou non de mettre un adjuvant dans ce candidat vaccin. Et donc, nous avons réparti les individus en vaccinés et en contrôle recevant un placebo. Trois injections, des visites pour vérifier la tolérabilité et l'immunogénicité. Nous avons démarré en septembre 2016 et nous avons terminé en septembre 2017. Résumé en une diapositive, énormément de résultats. Ça vous paraît complexe, mais je vais la simplifier. Tout d'abord, le candidat vaccin est très bien toléré. Aucun effet secondaire sérieux ou sévère. En termes d'immunogénicité, donc toujours la volonté de titrer les anticorps spécifiques contre le LPS de Shigella flexneri 2A, donc c'est une vaccination parentérale, on cherche les titres en anticorps IgG dans le sérum. Donc vous voyez ici les résultats à partir des individus qui ont reçu la dose de 2 microgrammes, donc on a 70 ou 90% des individus qui répondent à cette vaccination avec ou sans l'adjuvant, et par rapport au niveau de base des anticorps, on a une augmentation d'environ 5 fois de cette réponse anticorps, un petit peu plus ici après la troisième injection. Les résultats sont encore beaucoup plus spectaculaires avec la dose de 10 microgrammes. On a 90 à 100% d'individus qui répondent à la vaccination. Et dans ce cas-là, par rapport au niveau de base des anticorps, on a une augmentation d'un facteur 25-27 de la réponse anticorps. Donc des résultats tout à fait significatifs et enthousiasmants, si je puis dire. Évidemment, au-delà de ça, ce n'est pas le tout d'induire des anticorps. Encore faut-il que ces anticorps soient fonctionnels. Et donc, nous avons montré que ces anticorps induits par ce candidat vaccin avaient une activité bactéricide et donc étaient capables de tuer in vitro, dans un essai avec du complément, les bactéries SF2A. Ce qui est très intéressant dans nos résultats, c'est que si on compare le niveau d'anticorps que nous avons été capables de générer chez ces volontaires sains en Israël par rapport aux résultats en anticorps qui sont induits lors de l'infection naturelle, toujours chez des individus en Israël, dans des zones à haut risque ou à bas risque à Shigella, eh bien vous voyez que les résultats que nous avons générés par notre candidat vaccin sont bien meilleurs que ceux générés par l'infection naturelle, nous permettant d'imaginer que nous avons été capables de faire mieux que la nature. Avec ces résultats, nous avons eu la chance de nous trouver au bon moment, au bon endroit, avec les bons résultats. Nous avons été invités à la Fondation Gates en septembre 2017 pour présenter nos travaux lors d'un meeting qui avait été organisé par la Gates pour essayer d'accélérer vraiment le développement, la commercialisation d'un vaccin Shigella avec un objectif à 2025. Donc ici, c'est l'équipe. Laurence, je vous l'ai présenté. Ça, c'est Danny Cohen qui a fait les résultats d'analyse immunologique lors de l'essai de phase 1. Et donc, en fait, a été rediscuté au cours de ce congrès un petit peu le vaccin idéal. Donc, on doit prévenir les diarrhées modérées à sévères dues à Shigella dans un vaccin tétravalent comprenant Sonei, Flexneri 2A, 3A et 6, chez les enfants de 6 mois à 5 ans, après deux injections et en espérant que l'immunité protectrice induite ait au moins une durée de 2 ans. Après ces présentations de ces résultats qui ont été assez favorablement perçus par la communauté qui était présente à ce meeting, une semaine après, j'ai reçu une invitation à soumettre des propositions de projets pour que la Fondation Gates nous aide à poursuivre le développement de ce candidat vaccin. Et donc, depuis septembre 2017, c'est une activité extrêmement intense que nous avons eue sur la poursuite donc, du développement de ce candidat vaccin. On a renforcé l'équipe. On a Christine Guerquet, qui est responsable des programmes vaccins à l'Institut Pasteur, qui a contribuer à consolider l'équipe, et puis Cécile Artaud, qui est spécialiste d'essais cliniques. Et donc, il y a un premier projet qui a été financé par la Fondation Gates, qui est de faire la preuve du concept chez l'homme que notre candidat vaccin est capable d'induire de la protection. Donc, pour cela, nous allons mettre en place, ça va bientôt démarrer, une étude de ce qu'on appelle de challenge humain, c'est-à-dire un modèle infectieux chez l'homme, avec une infection, bien sûr, contrôlée, de manière à pouvoir comparer Et ça, c'est ce qui avait été fait, je vous en ai parlé brièvement, avec la souche SC602, hein, où on avait montré qu'il y avait 100% de protection contre la dysenterie bacillaire. Donc, l'essai est le suivant, on prend des volontaires, une partie est vaccinée, une partie reçoit un placebo, l'ensemble est infecté avec une souche définie, des doses définies, etc. Vous imaginez évidemment que tout cela est extrêmement contrôlé. Et dans les vaccinés, on va voir si on a de la protection par rapport à la maladie qui se met en place chez le groupe contrôle. Donc là, on va être prêt à partir, à démarrer les immunisations en janvier 2020. Et j'aimerais juste insister un petit peu sur cet essai qui prend de plus en plus d'importance. Vous avez ici le déroulement des essais de développement clinique pour un vaccin, la phase 1, la phase 2, la phase 3. Très brièvement, ce que je veux juste vous illustrer, c'est que le nombre d'individus augmente en fonction des phases et évidemment le coût et le temps, bien évidemment, entre en ligne de compte également. Donc, le fait de mettre en place un challenge humain en particulier pour des maladies pour lesquelles on n'a pas de bon modèle prédictif chez l'animal, ce qui est le cas pour Shigella, et où on est quelque part un petit peu obligé de passer directement à l'étude chez l'homme, eh bien, en fait, cette mise en place de cette infection contrôlée chez l'homme permet d'avoir des données préliminaires d'efficacité et donc de ne faire passer en phase 2 que des candidats vaccins pour lesquels on a déjà une idée de leur capacité de protection. Donc on va limiter les coûts, on va gagner du temps et c'est quand même à l'heure actuelle vraiment la mise en place de ce type de challenge humain, quelque chose qui est de plus en plus encouragé par les fondations qui financent le développement de projets et également au niveau de l'industrie. Et il y a même aujourd'hui des vaccins qui ont été récemment commercialisés simplement sur les données à partir de ces challenges humains qui évitent donc toutes ces phases ici très longues et très coûteuses. Le deuxième projet financé par la Fondation Gates et par le Wellcome Trust, c'est de faire la preuve de concept de la tolérabilité et de la capacité immunogénique de notre candidat vaccin dans la population cible. Donc ça, c'est l'équipe au complet lorsque nous avons défendu le projet au Wellcome Trust en février dernier. Et ce que nous allons réaliser au Kenya, à Kericho, au Kemri Institute, c'est en fait l'étude suivante. Nous allons commencer à nouveau par les adultes, vérifier que le candidat vaccin est bien toléré, vérifier l'immunogénicité. Ensuite, nous allons passer à la cohorte numéro 2, les enfants de 2 à 5 ans, pour terminer avec la cohorte numéro 3, 200 enfants qui vont d'environ 9 mois, pour lequel nous allons tester ce que nous avons testé dans la phase 1, c'est-à-dire 2 microgrammes et 10 microgrammes d'équivalent en sucre synthétique de notre candidat vaccin, et puis tester encore l'importance ou pas d'avoir ce candidat vaccin adjuvanté avec de l'ALA. Et là, nous sommes en train de faire toutes les procédures réglementaires et nous pensons pouvoir démarrer les immunisations au début de 2020. Ce que nous sommes également en train de faire, et ce qui a été également financé par la Fondation Gates, c'est aussi la nouvelle institution développée par Gates, qui s'appelle le Medical Research Institute, c'est le développement du vaccin tétravalent. En fait, l'état des lieux aujourd'hui, c'est que je vous ai montré la stratégie pour SF2A. Nous avons appliqué la même stratégie pour SF3A. Dans des modèles, un modèle préclinique chez la souris, nous avons montré que si nous combinons les deux, ça marche très très bien. On induit des anticorps et contre SF2A et contre SF3A, et ces anticorps sont fonctionnels. Nous sommes en train de terminer avec Laurence la caractérisation des conjugués pour SF6 et pour Sonei, de manière à avoir ensuite ce cocktail de 4 conjugués qui va être à la base donc, de notre vaccin tétravalent. Alors, ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que c'est important de remettre cela dans un contexte plus général, et je crois que Philippe et moi-même et toute l'équipe, Laurence également bien sûr, nous sommes quand même, je dois dire, assez fiers de faire partie des en fait 3 candidats vaccins qui sont le plus avancés actuellement pour les développements, les tests en essais cliniques. Ça, ce sont les images lorsque nous sommes allés à Kericho pour la visite du centre dans lequel l'essai clinique dans la population cible va se mettre en place, et il y avait un petit panneau à l'entrée de ce centre qui résumait en fait les trois candidats vaccins qui allaient être testés. C'est très intéressant de vous préciser ici que la Gates et le Wellcome Trust ont décidé de vraiment mettre en place une stratégie qui va permettre de comparer ces trois candidats vaccins. Donc ils vont être testés tous les trois au Kenya, dans la même population cible, et il y a tout un travail d'harmonisation au niveau des méthodes avec lesquelles on va mesurer l'immunogénicité, la réponse anticorps, de manière à pouvoir arriver à une situation où on va pouvoir être en mesure de comparer et où simplement on va ensuite décider parmi le meilleur lequel sera poussé plus avant pour pouvoir arriver à la commercialisation dans les temps proposé 2025-2027, qui personnellement me paraissent quand même un petit peu irréalistes. Et donc les deux autres candidats vaccins, eh bien, ce sont des compagnies, donc GSK en particulier, qui maintenant en fait a les deux autres candidats vaccins. Et donc nous sommes la seule structure académique qui avons atteint ce niveau de test en essai clinique sur le terrain. Et donc juste pour que vous sachiez, les deux autres candidats vaccins qui sont développé, c'est intéressant, il y en a un autre qui est aussi un conjugué, et c'est un bioconjugué, c'est-à-dire que dans ce cas-là, il n'y a pas du tout de synthèse chimique de sucre, il y a simplement une bactérie Escherichia coli recombinante qui a été modifiée pour pouvoir exprimer toutes les protéines nécessaires à finalement ensuite avoir la production de ce bioconjugué qui est produit au niveau périplasmique et donc ensuite qui est récupéré. Alors là, c'est très facile à produire. Vous avez des grandes quantités très rapidement. La différence avec notre approche sucre synthétique, c'est qu'ici, vous avez beaucoup moins de marge de manœuvre pour décider quelle va être votre structure sucre. Et en particulier, l'avantage de notre approche synthèse chimique, c'est qu'il y a des résidus comme des acétyls qui semblent avoir des rôles très, très importants en termes d'immunogénicité. Et nous, quand on synthétise les sucres, on peut décider ou non de mettre ces acétyls et de tester si oui ou non, ils ont effectivement un impact ou pas. C'est beaucoup, beaucoup plus difficile dans l'approche bioconjuguée qui a été développé par l'IMATEC. Et puis l'autre approche, c'est intéressant de voir que finalement, grâce à StopEnterix, qui a permis de mettre en évidence la bonne tolérabilité et l'immunogénicité de ces vésicules membranaires développées par la fondation Novartis, maintenant GSK, eh bien, c'est l'autre candidat vaccin qui est aussi bien avancé. Et dans ces deux cas-là, ils sont un petit peu plus en avance que nous. Ils ont déjà des vaccins tétravalents qui vont être testés. Donc, je terminerai sur cette diapositive. Ça a été 30 ans absolument formidable. Merci Philippe. On a beaucoup appris. Je dois dire que d'avoir pu combiner à la fois une recherche fondamentale avec essayer de disséquer un petit peu comment la bactérie était capable de manipuler la réponse immunitaire et de pouvoir en parallèle développer une approche vaccinale qui arrive à ce niveau de test en essai clinique. Je crois qu'il y a beaucoup de scientifiques qui seraient ravis de pouvoir faire ce constat après tant d'années. La grande question, c'est où est-ce qu'on va se situer dans les années qui viennent. Donc j'ai envie de vous proposer de vous donner rendez-vous dans 3 ans. Dans 3 ans, on en a les résultats à la fois de l'efficacité et à la fois de l'immunogénicité chez les jeunes enfants. On verra si on est aussi performant que nos deux autres compétiteurs et si on restera en lice pour cette dernière étape extrêmement complexe qui devrait amener donc à avoir un vaccin contre la shigellose, on va dire, aux alentours des années 2030. Je vous remercie pour votre attention. Je ne peux pas ne pas signaler que, comme vous l'imaginez, c'est un travail d'équipe avec énormément de personnes qui ont contribué. Et sans citer tout le monde, je voudrais absolument insister sur la contribution absolument majeure de Laurence Mullard dans ce projet et de son équipe au cours de toutes ces années. Sans son expertise glycochimie et glycosciences de manière générale, ce candidat vaccin n'aurait jamais pu voir le jour. Voilà, merci pour votre attention.